Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonsoir à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve comme chaque vendredi pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Rav Eli Lemel. Rav Lemel, bonsoir à vous et Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
Rav Lemel, on ne va pas tarder à se dire Pessah Sameach. Je ne sais même pas d'ailleurs si la tradition nous permet de le faire dès maintenant. Toujours est-il qu'on rentre sur Shabbat Rodesh. Donc c'est l'un des quatre grands Shabbatot avant les fêtes de Pessah. Celui-là marque le mois. Et c'est sur ça que vous voulez nous entretenir sur ce soir. Qu'est-ce que ça signifie un Shabbat où non seulement on va lire Parashat HaChodesh, mais on va réfléchir sur l'idée de compter les mois, ce qui veut dire aussi compter le temps, et pourquoi est-ce que c'est important. On vous écoute, Rav Lemel.
Exact. Alors, on est en effet à la fin de ces fameuses Arba Parashiot, c'est-à-dire de ces quatre textes supplémentaires qu'on a lus depuis juste avant le mois de Hadar, ou au début du mois de Hadar. Et les trois premiers textes, alors évidemment, ce sont des textes fondamentaux. On comprend un petit peu mieux, et ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est sur la base d'un enseignement d'un maître qui s'appelle Rav Moshe Shapira. Je ne vais pas lui faire dire ce que je dis, parce que... mais néanmoins, le point d'entrée est très intéressant. Il faut savoir qu'on est, en premier lieu, on a lu la paracha de Shkalim, c'est-à-dire le texte dans lequel on relate... l'obligation qui est faite au peuple d'Israël de donner cette fameuse somme de Machatzit HaShekel pour la trésorerie du temple. Donc ça, c'est le point de départ. Après, on a parlé de la vache rousse. Après, on a parlé donc de l'obligation de se rappeler de Amalek. Et puis après, la vache rousse, et là, Parashat HaChodesh. Alors, les trois premières, on entend un petit peu ce qui se joue au niveau de l'identité juive. C'est-à-dire, la première paracha, c'est de nous rappeler qu'en effet, on doit avoir une pièce d'un demi-shekel pour la trésorerie du temple, et on se rappelle que cette pièce d'un demi-shekel qu'on a demandé à Moshe de la demander au peuple d'Israël, Dieu lui a montré une pièce d'un demi-shekel en feu, pour bien lui montrer que l'argent, c'est l'image du feu, il faut être à la bonne distance. Et j'ai envie de dire, ça fait partie des premières choses qu'on va dire au peuple d'Israël avant la construction de son identité, savoir... être à la bonne distance des choses, et plus particulièrement de tout ce qui a trait au domaine de l'avoir, pour ne pas se faire dévorer par lui, ou alors, si on en est trop loin, ne pas réussir à construire. C'est aussi la pièce d'un demi-shekel, je vais un peu vite sur ça, mais le demi, c'est savoir que on a besoin sans arrêt de l'autre, et puis tout le monde doit donner la même pièce, même les riches, même les pauvres, pour montrer au fond qu'il y a cette notion d'égalité. Ça, c'est le point de départ. Après, on a eu la paracha de Amalek, dans laquelle on nous rappelle, sachez qu'il y aura toujours une confrontation entre Israël et les nations, ça fait partie des constantes de l'histoire, et donc soyez prêts à cela. Soyez prêts à cela, et n'imaginez pas qu'à un moment les choses s'arrêteront, elles seront toujours présentes de manière différente. Puis après, c'est le monde des mitzvot, le monde des lois, avec la loi de la vache rousse, qui sont les lois de pureté et d'impureté, pour nous dire, sachez que vous allez avoir des lois, vous n'arriverez pas nécessairement à les comprendre toutes, mais elles vont être fondamentales pour... vous inscrire véritablement dans votre identité, dans votre relation à Dieu. Mais après, il y a Parashat HaChodesh. Alors, Parashat HaChodesh, et c'est là où on arrive, et comme vous le disiez très bien en entrée, avec la notion du temps. Et pour mieux comprendre, on va essayer de se rappeler du premier Rashi de la Torah. Lorsque la Torah commence et qu'elle nous dit « Au début, Bereshit bara Elokim, Dieu créa au commencement », Rashi sur place dit « Mais pourquoi on a eu besoin de nous parler de la création de l'univers, et plus particulièrement, comme disent les Rishonim, nos maîtres, de la création du temps, parce que les Rishonim disent que la première chose qui est créée, c'est l'univers du temps. On aurait dû commencer par justement cette paracha qu'on va lire demain, qui est la paracha HaChodesh, c'est-à-dire celle dans laquelle on parle du premier mois. Et Rashi donne la réponse qui est la sienne. Mais on est en train de nous dire, au fond, on aurait dû commencer la Torah par un texte qui nous parle aussi du temps. Mais on parle aussi du temps au début de la création. Et c'est là où il y a cette idée extraordinaire du Rav Moshe Shapira qui dit non, on ne parle pas de la même chose. Il y a le temps des nations, le temps de l'univers et le temps du peuple d'Israël. Le temps de l'univers, c'est le temps qui s'écoule, c'est le cycle normal des astres, de tout ce que l'on voit. Et puis le temps du peuple d'Israël qui est là pour annoncer un cycle de fêtes qui sont des lieux de rendez-vous avec une histoire particulière qui quelque part façonne le sens de l'histoire. Et c'est vrai qu'il y a ici une idée extrêmement fondamentale. Et j'aimerais qu'on réfléchisse un petit peu plus sur celle-ci. On a deux manières, au fond, d'appréhender la relation que l'on a à l'existence. Soit on est dans un monde qui fonctionne, c'est Bereshit, voilà. Il y a la création, il y a l'univers, il y a le rythme, il y a les planètes, il y a le soleil. Il y a... Voilà, c'est comme ça. Et puis l'être humain est à l'intérieur et puis il vit sa vie. Il fait ce qu'il pense devoir faire. Et puis le temps s'écoule et la vie avance. Ou alors, pas du tout. Le temps, et c'est le temps du peuple d'Israël, c'est savoir que nous avons des rendez-vous avec une histoire. Nous avons des rendez-vous et nous devons être présents dans ces rendez-vous. Nous devons agir, c'est-à-dire que le monde a été créé pour que nous puissions vivre ces rendez-vous, pour que nous puissions vivre ces moments, parce que ainsi le Créateur de l'univers en a décidé. Et c'est quelque chose de totalement différent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une vie dans laquelle il va y avoir un être humain et puis il va y avoir des choses à faire, pas du tout. Il y a en effet un projet qui nous dépasse radicalement, totalement, complètement. Mais ce qui est important, c'est de se dire, voilà, au fond, la création de l'univers, elle est là parce qu'il faut que l'être humain, que Dieu va décider de créer, puisse avoir des rendez-vous, parce qu'à travers cela, il s'inscrit dans un projet qui le dépasse radicalement. Et c'est ça, au fond, ce que l'on va dire demain. « Achodesh Hazeh Lachem », c'est-à-dire cette notion du « moi », il est Lachem, il est pour vous. C'est-à-dire que tout tourne autour de quelque chose qui nous dépasse radicalement, mais dans lequel nous devons jouer notre rôle, nous devons jouer notre partition, nous devons être véritablement présents. Et évidemment, ça nous amène à avoir un regard très, très, très différent sur l'existence. Notre grande difficulté aujourd'hui, c'est de vouloir comprendre quelque chose qui nous dépasse radicalement à l'intérieur d'un système qui, quelque part, attend de l'humain, qu'il cherche à tout comprendre pour pouvoir décider d'agir, pour pouvoir décider de fonctionner. Et c'est exactement le contraire qui va nous être proposé. Donc, demain, oui, en effet, on va lire cette parasha de Parshat HaChodesh. Et le texte est très intéressant parce que il va nous dire « Achodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodashim ». Ce mois-ci est « Lachem » pour vous, justement, Rosh Chodashim, ce qui est à la tête des mois. Alors, la première lecture, c'est le premier mois de l'année. Mais ce qui est intéressant, c'est que pourquoi il est marqué « Achodesh Hazeh Lachem » ce mois-ci est pour vous. Ben oui, c'est bien qu'on parle au peuple d'Israël. Et puis, pourquoi on nous parle de roche, de tête? On aurait pu imaginer Trila, le début des mois. Il y a ici peut-être quelque chose de beaucoup plus profond qui se joue. « Achodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim » Ce mois-ci, au fond, c'est-à-dire ce moment dans lequel on vous raconte la relation au temps de manière totalement différente, c'est ce qui va être à la tête des Chodashim. Et Chodesh, rappelons-nous, c'est Chadash, c'est Chidush, de quelque chose de complètement nouveau. C'est-à-dire que ce que ce mois va ouvrir pour vous, peuple d'Israël, c'est quelque chose qui est, pardonnez-moi, totalement nouveau. Une manière totalement chidushique, nouvelle, d'appréhender l'année, d'appréhender la vie, d'appréhender l'existence. Et c'est avec cette idée-là que nous pénétrons véritablement dans l'année juive, dans l'année dans laquelle chaque moment n'est pas là parce qu'il est là et on va y mettre quelque chose, mais chaque moment génère quelque chose de particulier. D'ailleurs, les maîtres de la Kabbale nous disent bien que ce n'est pas parce que la sortie d'Égypte a eu lieu le 15 Nissan qu'on va fêter Pessah le 15 Nissan. Ils nous disent que c'est parce que le 15 Nissan est une date, est un moment particulier qui a une énergie particulière, que la sortie d'Égypte a lieu à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a dans cette relation au temps quelque chose de totalement nouveau. Et c'est peut-être de cette manière-là dont on va nous demander d'appréhender, de penser et de construire l'histoire du peuple d'Israël. Ce sont des idées qui ne sont pas banales, qui demandent d'être vraiment travaillées en profondeur, mais qui, quelque part, nous ouvrent une perspective totalement différente. Alors, même si j'ai utilisé un terme qui va vous paraître un petit peu surprenant, au fond, à travers la parashat Hodesh, on nous ouvre à rentrer dans ce que j'appellerais une forme de ghetto spirituel. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire de nous retrouver à nouveau à l'intérieur d'une vision de la relation que nous avons au monde et à la création, peut-être radicalement autre que celle que les sociétés nous proposent, et être présent dans le monde avec cette vision. Et quelque part, comprendre que c'est peut-être ça notre rôle, c'est de nous inscrire dans un univers avec un regard et une lecture totalement autre du sens de la vie, pour être peut-être source d'inspiration et faire en telle sorte que les choses se transforment dans le quotidien de l'humanité. C'est pas simple, ça a l'air un petit peu fou, mais vous savez, et je veux conclure là-dessus, aujourd'hui, on réfléchit beaucoup, par exemple, sur les problématiques d'IA, d'intelligence artificielle. Quelque part, on vous aurait raconté l'IA il y a 50 ans. Vous dites, mais c'est du n'importe quoi, c'est inimaginable, c'est pas possible. Eh bien, quelque part, cette manière d'appréhender l'univers et tout ce que ça peut avoir comme incidence, c'est quelque chose qu'on dit, c'est pas possible, ça veut rien dire. Et puis un jour, on va découvrir que oui, un petit peu à l'image de ce qui était inimaginable il y a quelque temps et qui aujourd'hui fait partie d'une réalité qui est devenue d'une forme d'évidence pour nous.
Magnifique. Mais moi, j'ai toujours été persuadé qu'on est limité. Je suis sûr qu'on le sent en nous-mêmes. Un jour, on aura des potentialités qui sont vraiment rien à voir avec ce qu'on fait. On se lève le matin. Je dis des banalités, hein, mais je pense qu'un jour, on le sent déjà entre nous, qu'on peut faire beaucoup mieux. Et je voulais cependant revenir sur ce que vous avez dit sur le 15, parce que je trouvais ça extraordinaire. Donc, ce n'est pas parce qu'on est sorti d'Égypte le 15 que le 15 est devenu un jour important. C'est parce que le 15 est un jour important qui fait que c'est ce jour-là qu'on est sorti. C'est magnifique. C'est tellement guémarati, j'adore. On m'avait raconté une fois aussi, je ne suis même pas sûr de le faire correctement, mais ça m'a fait penser à ce qu'on dit sur la guématria. Ce n'est pas que tel mot donne 75. C'est le 75 qui donne ce mot.
C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça aussi.
Ravi Lemel, merci pour ce beau moment qu'on a passé avec vous. Et je vous souhaite Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Rav Mordechai Bitton nous a rejoint dans le studio. Bonsoir Rav Mordechai, quel plaisir de vous voir à Paris.
Plaisir partagé, ça faisait plus d'un an que je n'étais pas venu.
Dans ce beau pays qui vous a donné le jour. Parisien d'ailleurs, ou pas?
Parisien, absolument. Oui. Parisien, banlieusard, parisien, c'est la totale.
Alors, et maintenant, habitant de Jérusalem, et Rav à Jérusalem, c'est beau, c'est un beau parcours. On va avec vous essayer justement de parler du temps. Parce que là, on est donc sur un Shabbat qui s'appelle Shabbat Chodesh. Il y en a quatre avant Pessah qui sont très importants. Et il y a celui-ci qui marque Rosh Chodesh. Et Rosh Chodesh, c'est nous, c'est pas seulement le début du mois, c'est une grande mitzvah. C'est une mitzvah d'être dans son temps, si j'ose dire. Et vivre dans son temps, comprendre où on est, c'est d'autant plus important qu'on arrive à Pessah et que là, on a des choses importantes à faire et à dire. Donc, c'est de ce sujet-là que vous voulez nous entretenir ce soir.
Alors absolument, parce que dans la réponse que nous donnons à la question du rachat de l'impie, nous lui disons, sache que tu te moques d'une certaine manière de ce que nous sommes en train de faire le soir du Seder, mais que la raison pour laquelle nous sommes sortis d'Égypte, c'est parce que la mitzvah de manger de la matzah était inscrite dans la Torah. Et le Zohar, la mystique juive, nous enseigne que Dieu a regardé dans la Torah et a créé le monde. Ce qui veut dire que le temps historique et son contenu historique, et tout ce qui va avec, ça appartient en quelque sorte à un projet. Et le 15 Nissan, on va vivre le 15 Nissan, c'est un temps qui est un temps de liberté. Et parce que ce temps est un temps de liberté, il a permis de faire émerger la libération du peuple juif. C'est-à-dire qu'il y a eu des 15 Nissan, il y a eu des libérations avant le 15 Nissan. Par exemple, Avraham Avinu va poursuivre les quatre rois qui ont enlevé Lot. Il va remporter la victoire de manière miraculeuse à Pessah, dans la période de Pessah. Par exemple, Lot va accepter de sortir de Sodome et Gomorre, donc de se libérer de sa passion pour l'argent, c'est aussi à Pessah. Donc il y a une libération individuelle. Il y a un potentiel dans cette date qui est un potentiel de libération. Et si on veut comprendre la portée de ce potentiel de ce temps, il faut regarder ce qui s'est passé le 15 Nissan à la sortie d'Égypte. Il y a un tel potentiel de liberté dans ce temps, c'est-à-dire que Hachem intervient de manière tellement massive pour permettre la libération, que le 15 Nissan, les Juifs vont se libérer d'Égypte. Et cette faculté de libération, elle se répète d'année en année. Chaque année, le 15 Nissan, ce potentiel de libération se répète. Alors, on n'est plus en Égypte. On n'a pas des contremaîtres égyptiens sur le dos, mais on a toujours l'exil sur le dos. On a toujours nos propres limites. Mitzrayim, ça vient du mot tsar, étroit. Chacun a ce qu'on appelle sa zone de confort, ses fausses croyances, ses croyances limitantes, tout ce qui peut limiter sa émoula, sa foi, son bitachon, sa confiance en Hachem, son adhésion à la Torah. Toutes sortes de limites psychiques, mentales et spirituelles. Eh bien, ce jour-là, il y a un potentiel de libération qui peut s'exprimer par le fait qu'on va prier pour être libéré et on va raconter la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qu'on raconte dans la sortie d'Égypte ? On ne va pas seulement raconter les miracles, mais on va raconter, par exemple, que les Juifs, les Hébreux, n'étaient pas forcément candidats à cette libération et qu'il a fallu les éveiller à cette libération. Donc, par exemple, le récit des 10 plaies d'Égypte, c'est un récit qui est de nature à nous expliquer comment Hachem intervient dans le monde et va finalement permettre l'émergence chez les Hébreux d'une volonté de se libérer. Et donc, effectivement, dans la paracha de Bo, qui est une des premières parachas du livre de Shemot, de l'Exode, qui raconte la sortie d'Égypte, là-bas, on vient nous raconter que le peuple juif, finalement, a été libéré par Pharaon lui-même. Pharaon va dire « Je vous autorise à sortir ». C'est-à-dire que j'en ai fini de cette emprise idéologique, philosophique que j'exerçais sur vous. Je n'ai plus d'emprise sur vous. Pourquoi ? Parce que les Juifs, juste avant, ont fait le sacrifice de Pessah, dans lequel ils ont définitivement mis à bas l'idolâtrie égyptienne et l'emprise qu'elle exerçait sur eux. Et au préalable, ils ont fait la Brit Mila, ils ont inscrit dans leur corps, ils ont inscrit dans leur être, cette volonté de libération de l'univers pulsionnel. L'univers égyptien était un univers qui laissait émerger la passion des pulsions et l'idolâtrie. Et ils ont ces deux ruptures. Ces deux ruptures leur permettent de se libérer. Encore une fois, cette libération a été rendue possible parce que le 15 Nissan, eh bien, ce potentiel était là et il pouvait s'exprimer. Il y a une autre fête dans laquelle on voit ça, Hanouka. Le Shulchan Aruch, ça c'est pas la mystique juive, c'est le texte de loi, le code de loi juif nous dit que les Hashmonaïm, les Asponéens, n'ont pas instauré la fête de Hanouka l'année même de la libération et de la victoire sur les Grecs. Ils ont attendu un an. Pourquoi ? Parce qu'un an plus tard, dans leur esprit saint, ils ont compris que la force qui avait permis la libération le 25 qui se lève, la libération de la Judée et du Temple, de l'emprise des Grecs, eh bien elle se renouvelait alors que la victoire était déjà consommée et que les Juifs étaient indépendants et que le Temple avait commencé à être reconstruit et purifié. Donc ils ont compris qu'il y avait une date qui était une date particulière et donc ils ont institué que le 25 qui se lève, on commence à allumer les néroths de Hanouka, les bougies de Hanouka. Donc c'est très important de comprendre que le temps, c'est en fait un potentiel, sans mauvais jeu de mots, un potentiel, une espèce de pote à nous tous, si je puis dire, sans mauvais jeu de mots, qui est au ciel, mais en fait, il faut le faire descendre. Il y a quelque chose qui n'est pas de ce monde et qui, en fait, te demande qu'à s'exprimer. Et dans l'histoire, on voit qu'un certain nombre de libérations sont intervenues parce que ce qui était au ciel est venu sur terre. Ça s'est exprimé dans les faits, ça s'est imprimé dans les faits. Et c'est pour ça que les fêtes juives ne sont pas des commémorations, jamais. Les fêtes juives, c'est un revécu. Et c'est un revécu dans les cas de la fête de Pessah qui est très intéressant parce qu'il y a une injonction de nos sages qui nous dit « Chacun est tenu de se considérer comme étant lui-même sorti d'Égypte ». On comprend bien. Parce que si le 15 Nissan, il y a un potentiel de libération qui a permis la libération des Juifs à l'époque des Hébreux, à l'époque de la sortie d'Égypte, il y a 3338 ans, et bien ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un potentiel de libération individuelle pour chacun d'entre nous. Et donc chacun est tenu de se considérer comme étant sorti d'Égypte et comme quelqu'un qui peut sortir de sa propre Égypte. Et là, ce n'est pas du tout une vue de l'esprit, c'est une réalité, c'est la réalité du temps. C'est ce qu'on appelle vivre le temps de la fête. C'est ce qu'on appelle vivre le temps de, finalement aussi, chaque instant. Parce que finalement, le temps, c'est une suite de potentiels, de forces que Hachem, que Dieu imprime dans la matière et qu'on peut récupérer. On les récupère de manière beaucoup plus prégnante et beaucoup plus, beaucoup plus spectaculaire, pardon, voilà, c'est ça, de manière beaucoup plus spectaculaire pendant les fêtes, mais c'est aussi une vérité quotidienne. C'est intéressant parce que le temps d'hébreu, ça se dit Zman. Zman, ça vient de Shon Zimun, c'est prédisposé à quelque chose. En fait, le temps est prédisposé à quelque chose. Alors, c'est ce qu'on répond à celui qui nous dit, mais qu'est-ce que vous faites avec votre matzah ? Voulez-vous libérer, libérez-vous des idolâtries contemporaines ? Non, on lui dit, non, pas du tout. La matzah, c'est le symbole même de ce potentiel du temps. Donc, nous, on est associés à Hachem dans la construction du temps, c'est-à-dire dans la possibilité d'imprimer dans le monde toutes les forces qu'Hachem a mis sur cette date et sur cette période de Pessah. Voilà, et c'est l'objet de cette libération à laquelle on va se préparer pendant maintenant quelques jours. Et on le rappelle, ce Shabbat où on lit Parashat HaChodesh, c'est-à-dire un bout de la Parashat de Bo, la section hebdomadaire de Bo qui se trouve dans le livre de Shemot de l'Exode, où là, on commence la Parashat de Bo, c'est la Parashat de la sortie d'Égypte. C'est la Parashat où les Juifs sont congédiés d'Égypte par Pharaon, où ils font le sacrifice de Pessah, où ils font la Brit Mila, enfin la Brit Mila avec le sacrifice de Pessah, et ils sortent d'Égypte. Et on va lire un bout de cette paracha pour nous préparer à réfléchir sur le potentiel de ces dates que nous allons vivre, qui est absolument extraordinaire. Et chaque année, on retrouve cette date, c'est un rendez-vous qu'on retrouve avec un potentiel qui est donc une force de libération. Il ne dépend que de nous de l'utiliser, d'y réfléchir et de s'y préparer.
Eh bien, déjà, en entendant ces paroles, on va pouvoir entrer un peu plus dans la fête et essayer un petit peu de comprendre sa signification, en fait, et sa profondeur. Rav Mordechai Biton, merci d'être venu nous voir dans les studios. Si vous ne le faites pas assez souvent, vous habitez à Jérusalem. Merci à vous, bonsoir et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom et bon courage à nous tous.
Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Gué, bonsoir et Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
Allez, les fêtes de Pessah arrivent à grands pas. On va parler à présent de Parashat HaChodesh. Alors donc, ça fait partie des quatre grands Shabbats qui précèdent les fêtes. Et vous voulez vous interroger avec nous sur le fait qu'on ne peut jamais faire d'interruption entre Parashat Para, qui était la semaine passée, Parashat HaChodesh. Donc, il y a forcément, elles sont liées, parce qu'on ne peut pas les couper. Mais pourquoi ?
Tout à fait. Et je voudrais ajouter que nos sages nous disent que, de la même façon que l'on ne peut pas faire de coupure entre la Parashat de Para, donc on a lu la semaine dernière, et la Parashat HaChodesh qu'on va lire demain, on ne peut pas faire de coupure entre la troisième coupe de vin que l'on prend le soir du Seder et la quatrième, en prenant encore une coupe de vin. Il est interdit d'en boire. Il faut que la troisième soit suivie de la quatrième, évidemment, après avoir lu les textes d'usage, mais pas de vin entre les deux. Par contre, ce n'est pas interdit entre la deuxième et la troisième, entre la première et la deuxième. Et donc, c'est intéressant de voir ce parallélisme qui est fait entre les quatre parachutes, les quatre lectures de Torah spécifiques au mois de Hadar, donc qui précèdent Nissan, et les quatre verres de vin. Quel rapport y a-t-il entre les deux ? Et nous allons suivre le chemin tracé par le Rav Tzadok HaKohen, le grand maître dans la Chassidut, qui est le Rav Tzadok HaKohen, et qui nous dit qu'en fait, il y a quatre leshonot shel Geoula, trois expressions de délivrance qui sont à l'origine des quatre coupes de vin. Je vous les cite, « Vegalti, Vehitzalti, et Velakarti » et Vevotseti. Donc il y en a quatre. Dans l'ordre, c'est d'abord je vous ferai sortir, je vous libérerai, je vous sauverai, et puis après, je vous prendrai comme peuple. Je vous prendrai comme peuple, dit Dieu. Donc on remarque qu'il y a en fait trois étapes d'abord de sortie d'Égypte, puisqu'on parle de sauver, de sortir, de libérer, donc on parle vraiment de la sortie d'Égypte, puis après on parle d'une quatrième étape où Hachem nous dit « Je vous prends comme peuple ». Et c'est intéressant de voir que c'est 3 plus 1. Et c'est comme les 3 verres plus 1 entre le 3e et le 4e, on ne peut pas boire de verre de vin, pour une raison très simple. Le Rabbi Tzadok HaKohen nous dit qu'il y a une Mishnah dans Pirkei Avot, très fameuse, « Akin'a, ve'ata'ava, ve'akavod, motim et ha'adam et ha'olam ». La jalousie, la passion et la recherche des honneurs font sortir l'homme du monde. Donc ce sont les gros dossiers, si je peux dire entre guillemets, qui sont sur notre route. Nous avons tous ces trois problèmes, plus ou moins fortement, et nous devons absolument nous sortir de notre petite Égypte personnelle, qui sont tout simplement nos défauts, qui sont reliés soit à la jalousie, soit à la passion, soit à la recherche des honneurs. Une fois qu'on s'est débarrassé de ces trois parts, de ces trois fautes, de ces trois mauvaises midotes, des traits de caractère tout à fait négatifs, nous pouvons passer à l'étape suivante, qui est la quatrième, qui est retrouver Hachem. Hachem nous prend avec lui parce qu'il dit « Vous vous êtes libérés, nettoyés, purifiés. Maintenant, je peux vous accueillir. » Donc les quatre vers, c'est 3 plus 1. 3, on sort d'Égypte, on sort de son Égypte personnelle, comme je l'ai expliqué. Et le quatrième, on rejoint Dieu, on rejoint Hachem. Alors, c'est intéressant de réfléchir et de dire que les 4 parashiot, c'est-à-dire Shkalim, donc on paye un demi-cycle pour, entre autres, se débarrasser de la jalousie. Tout le monde est à la même enseigne, demi-cycle pour tout le monde, qu'on soit riche ou pauvre. Tout le monde est à la même enseigne pour participer à l'acquisition du sacrifice public, du sacrifice de Tzibour, qu'on appelle le Corban Tamid et le Corban Moussaf. On se débarrasse de la jalousie, il n'y a pas une personne qui se met en avant et les autres qui sont derrière, tout le monde est à la même enseigne. Zahor, le souvenir d'Amalek, Amalek qui, justement, est celui qui veut réinstaller et mettre en place la ptava, la passion dans le monde, en expliquant que le ciel est à Dieu et que la terre est aux hommes et que les hommes doivent disposer de leur corps comme ils le sentent, comme ils le désirent. Et donc il est anti-Kdusha, comme l'a expliqué plusieurs fois le Rav Moshe Shapira, Zichatzadik Livracha. L'opposition, l'opposant, c'est la Kdusha. Kdusha, c'est la capacité de créer le lien entre ciel et terre. Et justement, notre Amalek est celui qui veut contester cette capacité de recréer un lien entre ciel et terre. Et donc, il est anti-Kedusha. Et il est donc lié à la Tahava, à la passion, et le Kavod, la recherche des honneurs. La Para, la vache rousse, c'est un mélange de cendre, c'est surtout de la cendre de la vache rousse, qui nous rappelle qu'un homme qui a accompli des belles choses dans sa vie ne doit pas les considérer comme étant, ne pas en retirer de l'arrogance, de la fierté mal placée, mais faire comme la cendre, il n'y a plus rien qui reste dans ma tête, c'est comme si j'avais rien fait. Par contre, à faire la terre, c'est une façon pour moi de me projeter vers l'avenir et de me dire que je suis capable de faire, de me projeter, de créer encore des choses. Mais ce que j'ai fait, je n'en retire pas des honneurs, je n'en cherche pas des honneurs. Ça, c'est la notion de paradouma, la vache rousse que l'on brûle et dont on récupère la cendre. Une fois qu'on s'est débarrassé de ces trois défauts, la jalousie, la passion et la recherche des honneurs, on passe à la quatrième étape qui est Parashat HaChodesh. Hachem nous appelle vers lui puisqu'il nous donne les premières mitzvot. D'abord, il nous dit que le mois de Nissan est Rosh Chodesh Nissan. Il nous parle déjà de Rosh Chodesh, que le mois de Nissan est le premier mois de l'année. Il nous donne des mitzvot, des lois concernant le Korban Pessah, la fête de Pessah en général. Donc, on est véritablement dans son peuple, on devient son peuple, ce qu'il nous donne le grand mérite de pouvoir accomplir son service, le service divin, c'est-à-dire les ordres divins. Et donc, nous nous rapprochons de lui, ou le kartemli. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire de séparation entre le troisième vers ou la troisième paracha et la quatrième paracha ou le quatrième vers, parce qu'en fait, une fois qu'on a fait le travail de nettoyage de toutes les tares et toutes les difficultés, de toutes les défauts ou des mauvais traits de caractère, bah, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il ne faut surtout pas rester entre deux eaux, il faut se projeter, se rapprocher de Dieu, parce que si on n'est ni là ni là, c'est-à-dire que si on a abandonné des mauvaises habitudes, mais on n'a pas acquis des bonnes habitudes, eh bien tout simplement on risque de retomber très rapidement dans les tares que nous avions avant, donc tout de suite se rapprocher de Dieu et agir. La non-action est très dangereuse. On est fragile parce qu'on a abandonné certaines choses, mais tant qu'on n'a pas pris sur nous de nouvelles choses qui nous protègent, qui nous encadrent, on est très fragile, on pourrait retomber. D'où l'importance de passer de 3 à 4. 3, séparation de l'Égypte intérieure à travers le combat contre la jalousie, la passion et la recherche des honneurs. Et 4, l'adhésion à Hachem, au service divin, à Pessah, etc. Ça, c'est la quatrième dimension. Voilà, en fait, ce que je voulais souhaiter à tous, c'est qu'on ait ce Shabbat le mérite d'adhérer à Dieu, nous rapprocher de lui, d'honorer son nom et de nous débarrasser de tout état dont j'ai parlé. Shabbat shalom.
Shabbat shalom, Rav. Rav, quand vous dites Tahava, vous voulez dire peut-être aussi les pulsions, non? Parce que la passion, c'est pas forcément mal. Vous êtes passionné pour quelque
chose. D'accord. On parle de passion négative qui nous amène vers, évidemment, des excès absolument regrettables. On parle de cela.
D'accord. Donc, bon, on pourrait dire aussi pulsion. Rav Gay, je crois, hein, je vous remercie et Shabbat shalom.
Shabbat shalom.
Albert Royon nous a rejoint dans le studio. Bonsoir, Albert.
Bonsoir.
Albert, y a des gens qui font le choix de partir en club pour les vacances de Pessah. Et alors vous avez fait un choix qui pose une deuxième question que moi j'aime beaucoup, hein, personnellement. Mais c'est un club qui est au Maroc, qui est à Marrakech. Alors d'abord, la première question que beaucoup se posent, pourquoi le Maroc ?
Pourquoi le Maroc ? Parce que déjà le Maroc est un pays qui a fait la paix avec Israël. Pourquoi le Maroc ? Parce que pour y vivre, je peux vous dire que les Israéliens, je ne parle pas que des Juifs, je parle des Israéliens qui se baladent avec des kippot sans aucun problème. Pourquoi le Maroc ? Parce que même lorsqu'il y a eu des problèmes, les événements du 7 octobre, et qu'il y avait des manifestations, ce qui était tout à fait normal, il n'y a jamais eu de mots ou de phrases dites telles que « mort aux Juifs » ou « brûler un drapeau palestinien, un drapeau israélien ». Pardon. Donc il n'y a jamais eu de problème. Pourquoi ? Parce que des gens qui sont capables, enfin qui proféraient des menaces contre les Juifs, sont emprisonnés automatiquement. Voilà pourquoi le Maroc.
Alors moi je pourrais aussi préciser quelque chose en tant que journaliste, parce que c'est remarquable, il faut le souligner, les Marocains ont en plus... jouer le jeu après le 7 octobre, sont restés avec Israël, n'ont pas refroidi leurs relations, bien au contraire, ils ont multiplié les échanges, ils ont repris des lignes directes. Et c'est vrai, ce que vous dites, c'est vrai. Sur le Maroc, c'est vrai, ça n'est pas sur, malheureusement, la Tunisie, par exemple, c'est pas... Mais le Maroc a joué le jeu de la paix, a signé la paix et a joué le jeu de la paix. Mais alors après, pourquoi un club ?
Pourquoi un club ? D'abord, on est tranquille, parce que...
Pas de ménage.
Il n'y a pas de ménage à faire.
J'appelle ma femme.
Et pourquoi le mien ? Parce que nous sommes en nombre très réduit. Ça veut dire qu'on est entre 100 et 120 personnes. Il n'y a pas la foule des 500 ou 600 personnes, comme j'entends parler. C'est beaucoup plus familial. Voilà, on va dire, c'est des vacances familiales, c'est tranquille. Les gens, voilà, on les chouchoute.
C'est quoi, c'est une espèce de petit domaine comme ça, avec des suites ?
C'est un domaine composé de villas, de 12 villas. Et un hôtel qui a 20 suites. Chaque suite, elle a au minimum 50 mètres carrés. Je pense que c'est le double de ce qu'est un hôtel normal.
Allez, je suis content de vous donner un coup de main parce que franchement, je pense que vous avez raison par rapport au Maroc et aussi par rapport aux gens qui aiment bien partir en voyage. Vous nous donnez le numéro de téléphone.
06 69 19 13 00.
Et il y a aussi une adresse mail.
Une adresse mail. pessah2025@gmail.com.
Et si je cherche sur Google, c'est quoi ? Event, je crois, quelque chose comme ça.
David Event Organisation.
Très bien, super. 06 69 19 13 00. Je vous souhaite le plus grand succès. Albert Royon, Shabbat Shalom.
Merci, Shabbat Shalom à vous aussi.
Voilà, cette émission est à présent terminée. C'est à mon tour de vous souhaiter à toutes et à tous Shabbat Shalom. Shalom loy boy na boy ma shem loy ishmari shav shokat shoy bay ma shem loy ne bayis shalom loy boy na boy ma shem loy ishmari shav shokat shoy bay